petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
La culture de mort, c'est l'expression tragique du pape François condamnant les abus sexuels commis par des prêtres, des religieux ou religieuses ou des laïcs en responsabilité d'église. En octobre, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église catholique, commission voulue dans la conférence des évêques et aussi celle des religieux et religieuses, bref, cette commission a rendu son rapport. C'est l'abomination de la désolation, pour reprendre une expression biblique. Mais en octobre aussi, et prévu depuis longtemps, le pape François annonce l'ouverture du synode pour devenir ensemble une église différente. Vive l'espérance. Les faits criminels sont accablants, même si, disons-le aussitôt, ils ne sont imputables qu'à une très faible minorité du clergé. Au demeurant, les chiffres sont impressionnants. La commission indépendante estime à 216 000 personnes le nombre de victimes d'attouchements sexuels, dont de nombreux viols. 4% du total de toutes les victimes d'agressions sexuelles en France, donc pas seulement dans l'Église, dans toute la France, ont été commis depuis 1950 par des abus religieux, des religieux, religieuses ou des clercs, religieuses aussi, mais en faible proportion. 0,82% des personnes qui ont fréquenté l'Église depuis 70 ans ont été agressées par des prêtres ou religieux. C'est arithmétiquement peu, c'est humainement beaucoup, c'est chrétiennement énorme. On peut ajouter 114 000 victimes de laïcs catholiques engagés auprès des jeunes, soit le tiers des agressions sexuelles qui ont été commises par des laïcs dans le cadre de l'Église, et deux tiers donc commis par des clercs ou religieux, ce qui entre parenthèses montre que le célibat des prêtres, puisqu'il y a beaucoup de laïcs qui sont impliqués, que le célibat des prêtres n'explique pas vraiment les dérives sexuelles dans l'Église, d'autant plus que les victimes dans l'Église sont à 78,5% des hommes et non des femmes, à contrario du reste de la société, où c'est les femmes qui, on le sait, sont les plus nombreuses victimes. Ces chiffres sont-ils une surprise? Non. Beaucoup de le savaient, mais soit ne disaient rien, soit n'étaient pas crus. En 1951, une excellente pièce de théâtre d'Henri de Monterland, alors ce Monterland très médiatique, avait soulevé un tollé dans les milieux catholiques. Dans cette pièce, La ville dont le prince est un enfant, Monterland, avec délicatesse, mais dans une atmosphère pesante, met en scène un jeune élève de collège catholique, turbulent mais affectif, qui innocemment séduit moralement, je dis bien moralement, séduit moralement, un élève plus âgé et aussi un prêtre de l'école. Ils forment un trio ambigu en souffrance affective et en rivalité jalouse. L'enquête dont je parle depuis le début, remise le 5 octobre 2021, se documente, je l'ai dit, à partir de 1950. Monterland aurait pu donner la plupart des conclusions dès l'année suivante, en 1951, date de sa pièce, et non, comme aujourd'hui en 2021. Donc on savait, mais on ne voulait pas savoir. On pourrait dire que la ville dont le prince est un enfant n'est pas une pièce pornographique et donc ne montre pas le crime d'atteinte à l'intégrité physique. Certes, mais la gravité est pire dans la pièce et même dans la réalité. Le viol sexuel n'est pas imposé par une violence physique, une prise de force, pouvant souvent se terminer par un meurtre. Non, le viol sexuel dans l'Église est le plus souvent dû à la douceur trompeuse d'un viol spirituel. Le croyant, surtout l'enfant croyant, est en pleine confiance avec le prêtre. Par sa rhétorique perfide et son autorité, le prêtre inclut sa perversité dans son propos apparent d'amour évangélique. L'enfant est alors faussement consentant, il est envoûté, manipulé, il est sous l'emprise du magistère dominant, l'enfant se croit religieusement invité au rapport sexuel. C'est l'abus de pouvoir clérical, c'est le cléricalisme que dénonce fermement le pape François. Viol de la conscience avant le viol du corps. Et ce viol de la conscience se poursuit même après les viols physiques. Car le prêtre est criminel par le même chantage spirituel et affectif, empêche l'enfant de, devenu jeune adulte, de le dénoncer. Et c'est là que l'Église est coupable. C'est une personne qui est coupable d'abus sexuels, certes, mais c'est l'Église qui est coupable de couvrir, de ne pas dénoncer le prêtre criminel jusqu'à faire jurer de se taire, faire jurer sur la Bible, sur l'Évangile. Il faut cependant nuancer. La commission indépendante de l'Église estime que celle-ci, l'Église, en tant qu'institution hiérarchisée, n'est informée de ces crimes que dans moins de 5% des cas. Je le crois, mais ça veut dire que la loi du silence domine dans tous les niveaux de la vie de l'Église. Bien plus, jusqu'en 2019, il y avait ce que le droit canon appelait le secret pontifical qui interdisait de communiquer ce genre d'informations sensibles. La gravité des abus sexuels est d'autant plus lourde qu'ils ont lieu dans l'Église qui est le corps mystique du Christ. Le corps mystique du Christ est en un sens l'humanité éternelle d'ores et déjà sauvée par la passion et la résurrection du Christ, et tout autant l'humanité temporelle qui poursuit dans le Christ sa démarche de rédemption. Mais en dehors de la foi, qui peut comprendre cela? Il faut dire que les crimes sexuels sont inadmissibles dans l'Église comme hors de l'Église. Et que cette affirmation claire, ne peut être édulcoré par des nuances malvenues. Mais le philosophe peut interroger l'histoire et s'apercevoir que la notion de crime est variable en fonction des époques et des cultures. La Grèce triomphante, des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ, pensait que l'amour entre un homme instruit et un jeune adolescent, cet échange entre la beauté intellectuelle et la beauté physique, était le modèle idéal de l'amour. Bien sûr, l'Église ne l'admettra jamais. Dans le tumulte de mai 68, la relation sexuelle avec des mineurs pouvait être considérée comme normale, y compris par des leaders d'opinion. Plus près de nous encore, un écrivain, Gabriel Matzneff, dont de nombreux romans détaillent avec complaisance cet érotisme avec les enfants, fut un auteur à succès. Mais la culture change et aujourd'hui, cet auteur est menacé de prison. La vérité n'est pas relative. Le christianisme ne peut pas accepter la manipulation pour séduire les enfants. Mais les chrétiens ne sont que des êtres humains, en marche vers leur salut déjà promis, et ils peuvent sombrer dans des contextes culturels païens. Le synode est le corps mystique du Christ en parole vivante. Il va proposer la culture du débat contre la culture de mort. Du moins, peut-on l'espérer. Mais les choses sont toujours complexes. Ne doit-on pas préserver le secret de la confession? Les hommes n'ont-ils pas besoin de cette intimité, de cet échange protégé? Peut-être faut-il nuancer aussi une excessive sacralisation du prêtre. Par exemple, supprimer des expressions comme directeur de conscience ou père spirituel, mais sans mettre en cause la prévalence des sacrements dispensés par le prêtre. En tout cas, il faut prévenir les enfants et personnes vulnérables contre les éventuelles approches perverses de tout adulte, y compris les prêtres. Toutefois, ne pas faire de la morale sexuelle une fixation prioritaire. Collection de péchés mortels qui ont une résonance psychique contre-productive. Le synode futur vise une église synodale, c'est-à-dire rassemblée, où tous les baptisés ont la même dignité, laïcs et ministres ordonnés, où les clercs et laïcs sont en co-responsabilité de l'Église, comme le dit déjà le Lumen Gentium du Concile Vatican II.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.